King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet rimouskois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, dans un premier temps, nous recevons M. Sébastien Chabot, romancier, qui est aussi chargé de cours au module des lettres de l'UQAR et doctorant en lettres, profil création littéraire à l'UQAR. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier roman, L'Empereur en culotte courte, paru aux éditions Trois Pistoles en 2013. Dans un deuxième temps, on va enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Monsieur Claude Lacharité viendra nous parler du bas du fleuve, berceau de la littérature québécoise. Dans un troisième temps, nous allons reparler avec Sébastien Chabot et suivant notre tradition et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du roman « L'Empereur en culotte courte » et nous aurons l'honneur d'entendre l'auteur lui-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission M. Sébastien Chabot. Bonjour Sébastien, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
D'abord Sébastien, j'aimerais qu'on parle un peu de votre rapport au territoire, hein, parce que je pense que c'est très important dans votre démarche. L'histoire de votre roman se passe dans le bas du fleuve, dans le village à vocation forestière de Sainte-Florence, dans la vallée de la Matapédia, un village qui existe vraiment. Au départ, donc, vous semblez vous inspirer d'un territoire réel, mais certains lieux du roman portent des noms pour le moins singuliers, voire symboliques, voire mythiques. Alors, pour représenter les lieux du roman, des lieux qui semblent de prime abord à peu près réaliste, hein? Je pense à la taverne du Vieil Hiver, à l'usine Barabas Incorporated, à l'école Beau Rivage construite sur un marécage. Mais ce sont des lieux qui deviennent rapidement caricaturaux ou mythiques en cours de roman. Hein? Par exemple, le labyrinthe et les portes de l'enfer de la Ziggoura de Croûte à l'usine Barabas. Hein? Donc, est-ce que vous êtes inspiré de lieux qui existent et la fiction a fait le reste ou vous avez inventé ces espaces-là qui sont dans un village réel de toutes pièces?
Bien, en fait, c'est un mélange des deux. Il y a des lieux qui existent vraiment, dont la Barabas Incorporated. C'était une usine de siège qui s'appelait la Bérubée, en fait, qui était tenue par une famille qui s'appelait les Bérubées. Puis on disait, évidemment, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était des industriels. Alors, il était connu comme Barabas dans le passé,
voilà.
d'où l'idée. Et ce lieu-là, l'usine Barabas, qui prend beaucoup de place dans mon roman aussi.
Oui.
Bon, justement, c'est très, je voulais faire quelque chose de mythique avec ça. Le côté industriel, ça devient presque une machine à dévorer, en fait, la nature.
Oh, oui, tout à fait, hein, parce qu'il y a des passages qui évoquent des monstres qui sont métalliques, mais des monstres quand même.
Absolument, il y avait vraiment cette idée de... Donc, l'inspiration vient de là, parce que quand j'étais étudiant, jadis, au secondaire, même au cégep aussi, je travaillais l'été dans cette usine-là, l'usine la Bérubée. Puis j'étais toujours été impressionné, en fait, par... les grosses machines qui circulaient, ça me donnait l'impression, d'ailleurs j'en parle dans le livre, comme une espèce de ballet de dinosaures mécaniques. Alors oui, il y a beaucoup de choses, je dirais, à inspirer de la réalité. L'usine, là je parlais de l'usine, mais il y a l'école aussi, l'école Beau Rivage.
Oui.
C'est une école que j'ai fréquentée, qui n'était pas bâtie sur un marais, mais disons que j'ai un souvenir plutôt... qui me donne l'impression. Mais en fait, c'est ça, on voit le travail de l'écriture, comment ça fonctionne. En fait, je m'inspire de mes souvenirs, puis je les mythifie, si je puis me permettre. Alors il y a un mélange, effectivement, de réalité et de fiction. Et par ailleurs aussi, pour atteindre, parce qu'il y a beaucoup de caricatures dans mon livre aussi, et pour atteindre une certaine crédibilité, hein, quand on caricature, il faut s'inspirer évidemment de quelque chose de réel.
Ouais.
Alors, il y a les hommes politiques aussi qui sont caricaturés là-dedans. Bon, il y a les journalistes.
Oui, on en reparlera tantôt dans la troisième question. Vos histoires, hein, ce sont des histoires qui sont abracadabrantes, mais qui sont jubilantes, hein, se déroulent à Sainte-Florence. Et elles aussi, les histoires qui sont racontées, elles prennent rapidement des allures légendaires. Hein, et ça, le narrateur qui raconte l'histoire vient nous souligner cette caractéristique-là, je dirais, à grands traits, parce que votre narrateur, c'est véritablement une mise en abîme de l'auteur, hein, qui va aller d'une part jusqu'à citer ses sources en notes de bas de page, jusqu'à indiquer des variantes de ces histoires-là qui circulent. Hein. Et d'autre part, on en vient à faire de la vallée de la Matapédia un territoire mythique, quand ça va avec ce que vous me disiez précédemment. Un territoire mythique qui est ancré dans la vie contemporaine, parce que les médias sont omniprésents, les matapédiennes rêvent d'aller magasiner à Québec aux galeries de la capitale, ou mieux à Brossard au 10-30. Donc, on a une vie mythique ancrée dans une vie contemporaine qui est à la fois fascinante et étrange, parce que le mythique prend le dessus et les catastrophes vont se succéder. Et il y a l'ombre d'une lignée maudite, hein, les Sebastiansen, qui plane et qui semble encore attirer la fatalité sur le village de Sainte-Florence et plus particulièrement sur la destinée du personnage principal, le petit Malik Beauchemin. Donc, encore là, est-ce que vous êtes inspiré de légendes locales que vous avez revisitées, exagérées, caricaturées, ironisées, ou si vous avez carrément inventé des légendes de votre cru? Parce qu'après tout, un jour, le souligner, la lignée maudite s'inspire dangereusement de votre prénom.
Oui, ah ouais, c'est ça. C'était drôle aussi. Derrière cette allusion comique à mon prénom, il y avait la volonté d'inscrire la vallée de la Matapédia, puis ça va répondre à votre question par rapport aux mythes et aux légendes. Je voulais faire de la vallée de la Matapédia un peu ce que Matt Groening arrive à faire avec son Springfield dans Les Simpsons. Okay. C'est que ça devient, en fait, la vallée de la Matapédia devient le centre du monde.
Oui, tout à fait.
Alors, en intégrant les Sebastiansen, cette légende des Sebastiansen qui est inventée de toutes pièces, simplement, peut-être dire un peu qu'est-ce que c'est la légende vos auditeurs, c'est simplement qu'il y aurait des Vikings qui seraient descendus dans la vallée de la Matapédia, parce qu'on sait qu'ils ont été à Lens au Meadows, à Terre-Neuve. Mais moi, j'ai fait descendre, ça, c'est la partie qu'on appelle le Vinland, là, c'est dans les mythologies scandinaves. Et là, il serait descendu. Moi, je l'ai fait descendre jusque dans la vallée de la Matapédia, où il rencontre des Micmacs. Et là, je raconte, ça, c'est une légende inventée aussi, qu'à Sainte-Florence même, il y aurait eu, les hommes de Leif Erikson seraient demeurés sur le site de Sainte-Florence avec des femmes Micmacs. Et en fait, les premiers Matapédiens seraient un mélange de Vikings et de Micmacs.
D'accord.
Fait que là, on est vraiment dans une mythologie très virile aussi, dire aussi, parce qu'il y a un côté très guerrier dans le livre, hein, Malik était bon. Alors, je voulais vraiment intégrer tout ça dans l'Empereur en culotte courte, parce que c'est peut-être prétentieux, mais j'aimerais ça que j'insiste là-dessus sur le Springfield de Matt Groening, c'est ce que je voulais faire aussi, que la vallée de Matapédia devienne quelque chose de... comment dirais-je, d'incontournable, que ça devienne le centre du monde.
Ouais.
Et en même temps, c'est un peu militant, hein, parce que on parle souvent de mes livres comme s'ils se passaient dans des régions éloignées qui n'ont rien à voir avec le Québec plutôt urbain, plus branché sur l'Occident. Moi, c'est militant aussi, parce que je prends position. Non, Sainte-Florence, mon village natal, fait partie du monde et devient le centre du monde.
Oui.
Alors, c'est ça que
comme dans toute mythologie, on a un lieu d'où tout part, dans le fond.
Absolument.
Hein, absolument. Alors, c'est vraiment fascinant. J'aimerais aussi, en dernier lieu, qu'on aborde l'aspect critique de votre œuvre. Hein. Là aussi, vous m'en avez glissé un mot, mais tout au long du roman, à travers le personnage de journaliste de Dumont, hein, on sent que vous critiquez beaucoup les médias, entre autres, mais aussi le milieu hospitalier, le capitalisme, la déforestation des régions. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette posture-là?
Deux choses. D'abord, ça vient d'un certain énervement. On raconte toujours que le Québec, il y a une certaine droite, il y a une certaine position politique aussi, pourquoi ne pas la nommer, je dirais plus fédéraliste, qui présente souvent le Québec comme un trou, comme le Rwanda. Bon, alors ça aussi, c'est un peu militant, parce que lorsque j'écris en quatrième de couverture de mon livre que j'habite au Canada à contre-cœur, il y a deux faits là-dedans.
Ouais.
J'habite dans la ville de contre-cœur, et bon. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, mais ça vient aussi de ça. Il y avait cette volonté... de faire un peu, parce que J'hésite à en parler, mais les films Elvis Gratton, il y avait une posture critique que je trouvais mal faite. Si je puis me permettre, c'était grossier, c'est vulgaire. Ouais. Alors moi, j'ai essayé d'aller vraiment dans le raffinement, d'aller faire des caricatures parce que... Alors, ça vient d'une part, il y a ça, il y a cette volonté vraiment de remettre les pendules à l'heure, si je puis me permettre, de mon point de vue, présenter une option politique qui est valable, l'indépendantisme, pourquoi pas. Ouais. Et ça vient aussi de mes influences. On va en parler dans un autre volet, mais mes influences, je veux dire, les écrivains qui m'ont marqué. On pense à Victor Lévy-Beaulieu, on connaît sa couleur politique. Évidemment, à Hubert Aquin aussi, qui est toujours présent, ses écritures.
Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais votre livre est truffé d'intertextes aussi. Hein? Donc, pas « coule en flamme », mais la phrase « coule en flamme » revient quelque part dans votre livre. Là, puis je m'étais dit « Ah, voilà, OK!
» Oui, il y en a plein, oui, c'est vrai. Ouais.
merci. Merci, Sébastien, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et votre roman « L'empereur en culotte courte ».
Bonjour, ici Catherine Gosselin. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Claude Lacharité. Bonjour, Claude.
Bonjour, Catherine.
Alors, Claude Lacharité, dans vos travaux sur la littérature québécoise, dont vous allez nous parler aujourd'hui, vous avez été amené à poser cette hypothèse très forte selon laquelle la littérature québécoise serait née au 19e siècle dans le bas du fleuve. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là?
Bien, d'abord et avant tout, ce sont les écrivains de cette époque qui sont nés en majorité dans la région. Je pense entre autres à l'abbé Henri-Raymond Casgrain, qui est le premier grand critique de notre littérature, qui est né à Rivière-Ouelle, mais qui a aussi écrit des textes de fiction, entre autres des légendes canadiennes, le tableau de la Rivière-Ouelle, entre autres, qui est assez connu. Je pense aussi à Joseph-Charles Taché, qui a écrit Forestier et voyageur et qui est né à Kamouraska, ou encore à Louis Fréchette, notre premier grand poète national, qui est né, lui, à Lévis, qui est en quelque sorte le début, si vous voulez, du bas du fleuve et le début de l'est du Québec, là où le fleuve s'élargit, où l'eau est déjà salée et où on a déjà l'impression que c'est un peu la mer. D'ailleurs, au 19e siècle déjà, comme aujourd'hui du reste, les gens dans l'est du Québec parlent communément du fleuve comme de la mer.
Très bien, mais au-delà du fait que c'est un lieu de naissance pour un grand nombre d'écrivains de l'époque, en quoi exactement l'Est du Québec est-il important pour les origines de notre littérature?
Bien, c'est vrai. Au fond, le fait que les gens soient nés dans cette région-là, c'est quelque chose qui est un peu indépendant de leur volonté. C'est un peu le hasard qui a fait naître ces écrivains dans l'Est du Québec. Mais ce qu'on constate, c'est que même lorsqu'on a affaire à des écrivains qui sont nés ailleurs, l'Est du Québec, le Québec maritime, est en quelque sorte un décor idéal pour la littérature du 19e siècle.
D'accord.
Je pense, par exemple, à quelqu'un comme Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui a écrit donc le roman « Charles Guérin ». Pierre-Joseph-Olivier Chauveau est né à Québec et pourtant, il situe l'action de Charles Guérin quelque part sur la côte du Sud, on ne sait pas très bien où, mais près de Rivière-Ouelle. Et visiblement, c'est une région qui l'inspire beaucoup. Hein. Il fait dire, entre autres, à un de ses personnages que c'est un endroit magnifique parce que le fleuve est presque infini et quand on regarde au loin, on a l'impression de voir la mer. Hein. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est Angéline de Montbrun, donc le roman écrit par Laure Conant. Laure Conant est originaire de Charlevoix et pourtant, elle aussi va décider de placer l'action de son roman quelque part près de Gaspé, dans un lieu imaginaire qui s'appelle Valrian. Mais on apprend au fil des pages que Valrian est tout près de Gaspé parce qu'à un moment, Charles de Montbrun, pour mettre à l'épreuve son futur gendre, lui propose d'aller faire une promenade, en quelque sorte une sorte de pèlerinage aux sources, en allant voir la croix que Cartier a plantée à Gaspé en arrivant en 1534.
Très bien, merci Claude. Est-ce que cette prédilection pour le Québec maritime pourrait être liée aussi, d'une certaine façon, à une manière de représenter l'espace?
Oui, tout à fait, Catherine. En fait, c'est même lié, à mon avis, à une manière de vivre l'espace au 19e siècle. Le moyen de transport privilégié pendant tout le 19e siècle, ça reste évidemment la voie maritime, le bateau, hein, et entre autres le bateau à vapeur qui est inventé précisément à cette époque. Et ça a une incidence forcément sur la manière dont on se représente le territoire lorsqu'on vient de l'étranger, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe. Forcément, on arrive par bateau, ce qui veut donc dire que on voit le Québec à partir de l'est du Québec. C'est la première région que l'on rencontre et forcément, comme le déplacement en bateau est assez long, ben on peut contempler pendant des heures et des heures, voire des jours, le très beau paysage qui s'offre alors aux voyageurs. Ça a une incidence, entre autres, sur les cartes géographiques. Hein. Quand on regarde un peu les cartes du 19e siècle, on voit que dans la légende, entre autres, évidemment, les régions sont numérotées pour les identifier. Et en général, la région numéro 1, ben, c'est l'est du Québec. Ce n'est pas un hasard parce que c'est évidemment par là que forcément on arrive lorsqu'on fait un voyage transatlantique ou un voyage depuis l'étranger. Il reste peut-être quelque chose de cette cartographie du 19e siècle dans les numéros que portent nos régions administratives aujourd'hui, puisque comme vous le savez, le Bas-Saint-Laurent porte le numéro de la région 01.
Oui, tout à fait. On a parlé de l'espace, parlons maintenant du temps. De mettre ainsi l'accent sur l'estuaire du Saint-Laurent entre Lévis et Gaspé, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de représenter le temps et l'histoire d'une certaine façon?
Oui, je pense que là aussi, vous avez raison, Catherine. C'est en réalité un peu les origines, je dirais, mythiques du Québec qui sont associées à l'Est, puisque, comme je le disais tout à l'heure, à propos du roman de Laure Conant, ça n'est pas un hasard si Charles de Montbrun veut amener son futur gendre voir la croix que Cartier a plantée en arrivant ici en 1534. Il y a cet attachement profond à l'histoire de la Nouvelle-France, aux origines françaises, et évidemment, les premiers voyages d'exploration au 16e siècle ont eu lieu essentiellement dans le golfe et dans l'estuaire du Saint-Laurent, même si, bien sûr, comme tout le monde le sait, Cartier a poussé évidemment ses voyages jusqu'à Montréal, mais il reste que l'essentiel de ses séjours, le territoire qu'il a vraiment bien exploré, c'est essentiellement le Québec maritime, la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.
Très bien. Alors, merci beaucoup, Claude Lacharité, pour cette hypothèse que vous nous avez expliquée aujourd'hui. C'était fort intéressant. Merci beaucoup.
Merci, Catherine.
Nous sommes de retour avec Sébastien Chabot pour le troisième segment de notre émission. Sébastien, si vous deviez identifier les auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lecteur ou d'écrivain, hormis peut-être Aquin et Victor Lévy-Beaulieu dont vous nous avez parlé tantôt, quels sont les noms qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
Je dirais beaucoup pour ce roman-là particulièrement, mais c'est un livre qui m'habite encore. Le Seigneur des Porcheries de Tristan et Golf, qui est un auteur américain, malheureusement, qui s'est suicidé à l'âge de 34 ans. Là, mais il avait écrit un livre, donc Le Seigneur des Porcheries, ça raconte l'histoire d'un enfant génial qui vit dans le Midwest américain. Et il se bat beaucoup contre la société, en fait. Puis là, on voit vraiment là, l'influence majeure, elle est là. Ouais. Il y a aussi Göran Tunström, qui est un auteur suédois que j'adore, que j'aime beaucoup parce que Göran Tunström fait ce que je tente de faire, bien modestement. C'est que sa région natale, le Värmland, qui se trouve être une région de la Suède, là, à la frontière de la Norvège, puis bon, il y a le lac Fricken aussi, il parle beaucoup de ça. Ben c'est ça, tous ses livres se passent dans son village natal, qui s'appelle Sunne. Et c'est ça, donc, on voit vraiment là, cette idée, cette volonté d'incarner le territoire. Oui. Puis depuis le début, je fais ça, oui. On parle de l'empereur en culotte courte, mais on pourrait revenir avec mon précédent roman qui s'appelait Le Chant des Mouches.
Oui, tout à fait.
Qui parle aussi de Sainte-Florence. Mais dans ce roman-là, Le Chant des Mouches, j'avais changé les noms. J'ai regretté. Bon. Parce que, bon, Sainte-Florence devenait Sainte-Souffrance. Mm-hmm. C'était rigolo, mais puis nous, on appelait notre ville comme ça, notre village comme ça, Sainte-Souffrance. Mais non, c'est ça, donc. Fait que c'est vraiment, là, ces auteurs-là ont été très importants. Mais vous voulez pas que je parle d'Hubert Aquin, mais j'aurais pas le choix. Parce que Hubert Aquin, avec Neige Noire, a été une influence vraiment majeure. Ce livre-là, particulièrement, Neige Noire. Juste pour rappeler, c'est que ça se passe aussi une partie en Norvège, une partie en Montréal. Bon, alors l'influence scandinave là, que j'aime beaucoup, bon, ça vient aussi de là.
D'accord, merci. En contrepartie, parce que tous les mois, je suis un petit peu curieuse et je veux mieux connaître mes invités en tant que lecteur, dans tous les sens du terme, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Sébastien Chabot?
Ben, ça va peut-être vous paraître curieux. C'est des bons livres quand même, là. Moi, je les adore, ça m'habite beaucoup. C'est les livres de Georges Bernanos, qui est un écrivain, je dirais chrétien, mais qu'on présente peu, que moi j'ai lu parce que j'ai un de mes amis bon, qui me les a prêtés. Et plus particulièrement, Sous le soleil de Satan, qui a été un livre majeur pour moi. Et il y a une influence Sous le soleil de Satan dans L'empereur en culotte courte.
D'accord. Enfin, comme dernière question, peut-être rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, vous enseignez la création littéraire ici à Lucar. De votre point de vue, quelle est l'importance de la lecture dans le parcours de formation d'un écrivain de la relève qui veut écrire du roman?
En fait, moi, c'est la lecture est fondamentale parce que je fais beaucoup l'écriture. En fait, tous mes livres sont partis de pastiches.
D'accord.
Alors, je pars des livres que j'aime beaucoup.
Oui.
Puis j'ai pastiche, puis après ça, ce que je fais, c'est que j'essaie d'effacer les traces de mon forfait, comme je dis, en justement réécrivant. Fait que là, j'enlève les influences au fond. Alors, puis mon atelier de création est basé presque essentiellement là-dessus, parce que je trouve que c'est une naïveté souvent que les jeunes auteurs ont de partir...
De dire qu'il ne faut pas s'influencer.
Ouais, exact. Alors moi, je pars tout de suite en cassant ce mythe-là pour revenir au mythe.
Eh bien, c'est bien. Merci beaucoup.
Alors, je vais vous lire un extrait d'un chapitre qui s'intitule « Travaux communautaires ». C'est un chapitre qui raconte, en fait, l'arrivée de Malik dans un programme de réinsertion sociale parce qu'il a été renvoyé de l'école Beau-Rivage. Alors, je vous lis l'extrait. « Le site Internet consacré au programme de réinsertion sociale « Il n'y a pas de saut métier » faisait la promotion active des joies du travail tout en distillant en filigrane des informations sur les nombreux dangers de la drogue. » De pompeux objectifs de revalorisation de soi à travers la découverte de la responsabilisation graduelle et de la prise en charge d'habitudes de vie saines se déployaient entre des sourires commandités qui donnaient l'impression que les Amérindiens avaient reconquis le Canada, tant ils étaient nombreux sur les différentes pages du site. Dès qu'un onglet était activé, une publicité de l'armée montrait que l'infanterie était un jeu vidéo grandeur nature où les risques d'être game over étaient soigneusement écartés. Le tout se présentait comme une initiative gouvernementale dénuée de la moindre partisanerie qui voulait favoriser la participation active de tous les citoyens au grand concert bilingue qui se déployait d'un océan à l'autre. Il fallait être sacrément tordu pour y voir quelque chose de mauvais. Parce que Malik avait promis à sa mère de bien se comporter, il passa la première année de sa formation dans une sorte de transe où il bouillonna en lui-même, tandis que les après-midi s'éternisaient dans toutes les horloges du centre où se déroulait la formation. Les ateliers de lecture au doigt et autres cours d'expression des émotions firent dégoûter mollement les heures sur le plancher. À quelques reprises, Malik s'endormit sur son bureau dans une mare de bave, au grand plaisir du responsable qui préférait, et de loin, répandre son savoir sur des enfants somnolents plutôt que turbulents.
Merci beaucoup à notre écrivain invité, Sébastien Chabot. J'aimerais également remercier mes collaborateurs, qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.